Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La France est à la veille d'élections municipales le mois prochain dans les grandes villes françaises. L'un des grands thèmes de cette campagne électorale, c'est celui de la difficulté à se loger. De plus en plus, les ménages sont contraints de s'éloigner des centres-villes tant les prix de l'immobilier y sont élevés. C'est en particulier vrai à Paris, où le prix du mètre carré dépasse maintenant les 10 000 euros. Cette envolée tire à son tour les prix des loyers vers le haut et ce phénomène est perceptible dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes capitales, dans toutes les grandes métropoles, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique. Face à cette inflation des prix du logement, les politiques cherchent la parade. Le plus souvent, comme récemment à Berlin, c'est un encadrement des prix des loyers qui est décidé. Tout récemment, le candidat de la République En Marche pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a proposé de mettre 100 000 euros à disposition des nouveaux acquéreurs d'un bien immobilier dans la capitale française. Alors ces remèdes fonctionnent-ils ou sont-ils inopérants? Y a-t-il un lien entre la finance et l'immobilier? Est-on face à une bulle immobilière géante, à une menace de krach immobilier? Voilà les questions que nous allons poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Ingrid Napi.
Bonjour.
Ingrid Napi, vous êtes professeure à l'ESSEC, une des grandes écoles de commerce de Paris. Vous y dirigez la chaire immobilier développement durable que vous avez créée en 2002, il y a 18 ans. Vous y travaillez en particulier sur la financiarisation de l'immobilier et de la ville. Avec vous en studio, Thomas Gjebin, bonjour.
Bonjour.
Thomas Gjebin, vous êtes économiste au CEPI, un des principaux think tanks parisiens sur les questions économiques internationales. C'est là que vous suivez les cycles immobiliers. Au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons voir quelle est la situation des marchés immobiliers à N'Djamena, au Tchad, avec Majasra Nako, à Moscou avec Daniel Valo, à Taipei, capitale de Taïwan, avec Adrien Simor, et à Paris, avec Patricia Lecomte. Ingrid Napi, on va commencer cette émission avec une petite annonce que vous voulez faire. Vous lancez la deuxième édition du Grand Prix de la Ville Solidaire avec une déclinaison pour la ville africaine solidaire et durable. De quoi s'agit-il exactement?
Alors en effet, c'est le Grand Prix ESSEC de la ville solidaire et de l'immobilier durable, avec 5 déclinaisons et notamment un prix spécial Afrique, ville solidaire et durable, dans un contexte, comme vous l'avez évoqué, d'augmentation des prix immobiliers et d'exclusion de parties de population. L'idée, c'est de voir comment on peut créer et penser de nouveaux modèles économiques et financiers pour produire une ville durable dans un contexte également de changement climatique. Donc c'est pour ça qu'il y a également une notion d'immobilier responsable et durable.
Donc vous attendez
Les appels à candidature, oui, voilà, se terminent le 1er mars. Donc nous avons reçu l'année passée un bon nombre de candidatures et nous souhaitons informer à la fois, ça a été soutenu également par l'AIMF, donc l'Association internationale des maires francophones, donc l'ensemble des auditeurs francophones de la possibilité de candidater pour des solutions innovantes en matière d'immobilier et de ville solidaire.
Toutes ces informations seront sur la page internet d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur le site www.rfi.fr. Mais on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans l'immobilier africain. À N'Djamena, au Tchad, les prix de l'immobilier suivent le niveau des cours du pétrole que le pays exporte. Quand le pétrole flambe, l'immobilier flambe. Quand le cours du baril chute, l'immobilier s'effondre. Et c'est le cas en ce moment. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Majasra Nako à N'Djamena, la capitale tchadienne.
Un terrain non bâti vendu à des dizaines de millions, un immeuble dont le prix frôle le milliard de francs CFA. Cette réalité fait partie du quotidien dans la capitale tchadienne, comme le témoin Balamsou, un Djaménois.
Autour des années 2010-2011, dans le quartier Chagoua, qui est non loin de l'autre, là, de l'ambassade des États-Unis, non loin de là, on avait acheté un terrain là à 11 millions, un terrain de 1 lot et demi. Aujourd'hui, ce terrain, on pourra le vendre à 25 millions, voire 30.
Entre 2003 et 2010, le boom pétrolier que le Tchad a vécu a provoqué une spéculation immobilière injustifiée. Mais ces dernières années, les clients ne se bousculent plus pour acheter des terrains ou des maisons, comme le constate Dame Ouattoro, qui habite en proche banlieue de N'Djamena.
Les années passées, les terrains étaient extrêmement chers. Mais de nos jours, depuis 2018, surtout avec la crise, les prix des terrains ont chuté. Et ça fait même que quand on passe, on voit même les affiches partout, vente de terrain, qui peut-être dure même des mois, des années. Personne n'a la possibilité de s'en procurer. De nos jours, pour une personne qui a un peu de moyens, il prend un terrain à vil prix.
À partir de 2016, le Tchad a connu une crise financière en raison de la chute des cours du brut, mais aussi un endettement qui a impacté toute son économie. Depuis, les affiches annonçant la mise en vente des terrains et immeubles sont visibles un peu partout, sans attirer grand monde.
Un reportage signé Majestra Nako à N'Djamena. Ingrid Napi, vous sembliez douter que ce soit les prix du pétrole qui provoquent ces allers-retours sur les prix de l'immobilier à N'Djamena.
Alors, très franchement, je ne connais pas le cas précisément de N'Djamena, mais évidemment, les causes sont bien plus globales et mondiales que seulement le prix du pétrole. Il faut voir qu'on parle soit des loyers, soit des prix. Si on parle des prix, et notamment donc des prix fonciers, qui vont avec les prix immobiliers. Mais oui, donc les prix immobiliers sont également basés sur les prix fonciers. On voit aujourd'hui une très forte demande à l'échelle mondiale, notamment pour ce qu'on appelle les villes-mondes, mais également pour les autres villes plus secondaires, d'actifs immobiliers, tout simplement parce que c'est un actif réel qui fait partie de des stratégies de diversification des patrimoine, des portefeuilles d'actifs financiers, des grands investisseurs, dans un contexte aujourd'hui d'épargne mondiale qui gonfle pour des raisons macroéconomiques, de baisse des taux d'intérêt. Donc en fait, on a un contexte financier et économique tout à fait propice et favorable à la montée des prix immobiliers. Donc il y a une surenchère sur la demande d'actifs de ce type, puisque les actifs financiers sur les autres marchés financiers vont un peu moins bien. Donc on se rabat sur l'immobilier, qui, ne l'oublions pas, est un actif qui permet de se protéger contre l'inflation. Certes, il n'y a pas d'inflation, mais quand il y aura de l'inflation, on sera donc protégé, premièrement. Dans un contexte de demande de placement de capitaux issus notamment d'une épargne de thésaurisation, mais également d'une épargne qui est liée au vieillissement de la population. Donc on a des grands fonds d'investissement qui cherchent à placer, qui ont de la difficulté à trouver des actifs immobiliers et qui donc, en fait, s'intéressent à possibilité de valorisation de fonciers qui, alors avec des priorités d'abord dans les pays très développés, et puis bien évidemment l'Afrique aujourd'hui devient et va devenir dans les prochaines années le continent à urbaniser de manière avec valorisation des actifs, parce qu'on a un manque d'actifs immobiliers dans le monde. Ça, il faut bien le comprendre.
Un actif, c'est un investissement.
Quand on parle d'actifs, ça veut dire un immobilier qui va rapporter des revenus. On voit l'immobilier de deux façons. Et si on ne prend pas cette distinction, on se trompe et on confond tout. D'abord, ne pas confondre les loyers et les prix. Parce qu'on peut avoir des loyers qui baissent avec des prix qui montent. Et inversement, il y a parfois des déconnexions totales entre les deux. Donc, soit on raisonne sur un immeuble qui répond à des besoins d'espace, des mètres carrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché du service immobilier, d'un point de vue économique, mais c'est le marché locatif. Soit on s'intéresse à l'immeuble en tant que rendement locatif, en tant que rendement capital, c'est-à-dire de plus-value, c'est-à-dire un immeuble qui va dégager des cash flows, des revenus locatifs et des revenus à la revente. Et si on s'intéresse à cet actif-là, on va donc s'intéresser au prix. Et je pense que c'est ce qu'on appelle la financiarisation de la ville. Comprendre aujourd'hui la hausse des prix immobiliers, c'est d'abord comprendre le comportement des grands investisseurs.
Thomas Glébida, est-ce qu'on ne va pas un peu vite, revenant à ce cas de N'Djamena, on sait bien que dans les villes où il y a des revenus du pétrole, le coût de la vie augmente. Est-ce que N'Djamena ne pourrait pas être un exemple de cette inflation des villes pétrolières, entre guillemets ?
Oui, et plus largement, le fait que les prix immobiliers évoluent aussi avec la conjoncture économique. Donc en effet, quand vous avez une crise financière, votre reportage a évoqué le fait qu'il y avait une crise financière. C'est une crise financière crée des destructions d'emplois, du chômage. Donc les gens ont moins d'argent pour acheter, et donc la demande baisse, et donc les prix vont baisser, quoi. Donc je suis pas un spécialiste de N'Djamena, mais ce qui semble, c'est qu'il y a toujours dans ce type de ville africaine, il y a deux types de marchés. Il y a un marché pour la population locale et il y a un marché pour les expatriés. Et ce qu'on voit, par exemple, N'Djamena, je crois que c'est une des villes les plus chères du monde pour les expatriés, justement, parce que c'est un marché très, très petit, où il faut appliquer des normes occidentales de sécurité, et donc vous avez une espèce d'inflation sur un petit nombre de biens. Et puis parallèlement, pour la population locale, vous avez aussi le fait que quand vous avez des recettes pétrolières qui rentrent, vous avez plus de revenus, et donc ça crée également des temps, enfin une plus forte demande et donc une hausse des prix, quoi. Parce qu'on va parler, je crois, tout à l'heure de Moscou, on observe aussi
vers la fin de la mission, ouais. Plutôt, oui.
Et donc, mais c'est ce genre de choses qu'on observe, c'est-à-dire que quand vous avez des rentrées fiscales ou que la ville s'enrichit, ça va être corrélé à une augmentation des prix immobiliers.
Alors, l'Afrique est un continent qui est en pleine urbanisation. Au cours des prochaines décennies, on devrait voir 1 milliard d'habitants supplémentaires dans les villes africaines. Est-ce que ça, Greenpeace, c'est un phénomène d'inflation immobilière ?
Ben comme vous le dites, si vous avez une augmentation du nombre d'habitants, avec notamment aussi une population étrangère qui vient en Afrique, forcément, il y a une demande plus importante. Et comme c'est un besoin fondamental de se loger, il va y avoir une demande plus importante pour les logements. Donc, si le marché est avant tout locatif, ça veut dire qu'il va y avoir une demande de se loger avec de la location. Donc, les loyers vont monter. Inversement, si c'est une demande plutôt pour l'accession à la propriété, ça sera une demande de la demande va automatiquement se traduire par une inflation des prix. Mais il faut bien séparer les loyers des prix, encore une fois.
Alors, vous travaillez sur la ville durable. Qu'est-ce que c'est que la ville durable si on l'applique par exemple à l'Afrique?
Ben, une ville durable, c'est une ville qui va durer dans le temps, c'est-à-dire qui ne va pas susciter de dysfonctionnements, que ce soit des déséquilibres économiques, par exemple des déséquilibres sur le marché immobilier. Une ville durable, c'est également une ville qui va prendre en compte le contexte environnemental. Une ville durable, c'est également une ville qui va prendre en compte le contexte social, qu'il n'y ait pas de tension sociale également, parce qu'il y a des personnes qui sont exclues. Donc en fait, c'est très complexe à monter. Une ville durable, on voit bien que c'est un concept multidimensionnel. Donc, une ville durable, pour répondre à votre question, c'est une ville qui n'exclut pas et qui est une ville inclusive, en fait.
Alors, on va aller sur le terrain, de nouveau, prendre un nouvel exemple de ville confrontée peut-être à la spéculation immobilière, vous me le direz, peut-être à une hausse naturelle des prix. Direction Taipei, métropole de 7 millions d'habitants et capitale de Taïwan, où le rapport entre les salaires et le prix de l'immobilier est parmi les plus élevés au monde. Le prix d'un logement moyen correspond environ à 15 années de salaire moyen. Seul Hong Kong fait mieux ou moins bien, selon le point de vue que l'on adopte. Conséquence, beaucoup de jeunes restent habités chez leurs parents jusqu'à un âge avancé. Les autorités peinent à endiguer le phénomène. Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Adrien Simor à Taipei.
District de Sanchong, en bordure de Taipei, un des quartiers les plus densément peuplés au monde. Rendez-vous au pied de l'immeuble de Chris, ce jeune Taïwanais de 27 ans travaille pour un site d'information en ligne. Son revenu est supérieur au salaire minimum taïwanais qui est d'environ 700 euros par mois. Et pourtant, il habite toujours chez son oncle et sa tante.
Notre appartement commence au troisième étage. Avant d'arriver, il faut d'abord monter un très long escalier. C'est assez vieux, il y a des trous dans les murs et donc il y a beaucoup de rats.
Pour rentabiliser l'espace, sa tante a installé un atelier de couture à l'étage. Chaque jour, 4 employés s'activent derrière les machines à coudre. Les vêtements sont ensuite vendus sur les marchés. C'est là que se trouve la chambre de Chris.
Oui, c'est ma chambre. Elle n'est pas très grande, mais c'est à peu près la taille du logement que tu peux louer à Taipei si tu viens juste d'être diplômé, que tu as ton premier travail et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Il y a tout juste la place pour mettre un lit, une petite table, mais dans ce cas, tu n'as pas de cuisine et parfois pas de toilette à l'intérieur.
Partager un toit avec sa famille n'est pas sans inconvénient. Sur son téléphone portable, Chris a enregistré le bruit des machines à coudre qui s'activent tôt le matin. Mais le petit loyer qu'il verse à sa tante est négligeable par rapport au prix du marché taïwanais.
J'ai choisi de vivre avec ma famille parce que je veux mettre de l'argent de côté. Les gens pensent toujours que vivre à Tokyo, à New York, peut-être à Paris est très cher. Mais si on compare au niveau des salaires, c'est en fait beaucoup plus abordable qu'à Taipei. Ici, je peux dépenser de l'argent pour ce dont j'ai vraiment besoin et mettre de côté. Comme ça, je pourrais un jour acheter une voiture ou peut-être même un logement à Taipei.
Selon un sondage du média Business Today, la moitié des Taïwanais âgés de 25 à 40 ans vivent encore avec leurs parents. Depuis les années 2000, l'écart entre les salaires et les prix de l'immobilier a presque triplé à Taipei. La faute à une fiscalité trop faible qui favorise les placements immobiliers et donc la spéculation. C'est en tout cas l'avis d'Alain Chan, chercheur au sein du collectif Hours. Dans les locaux de son association, Alain déroule une petite nappe de pique-nique. C'est la taille d'une ping, l'unité de mesure utilisée à Taïwan.
Most expensive house, this size is 2.5 million.
Dans les quartiers les plus chers, cette superficie coûte 2,5 millions de dollars taïwanais, ce qui fait presque 23 000 euros le mètre carré. La première raison, c'est la fiscalité. La taxe sur la propriété est très basse et les taxes sur les transactions, c'est-à-dire sur la spéculation, sont aussi très faibles. Donc les gens vont investir beaucoup d'argent dans l'immobilier et les prix augmentent constamment.
Cette fiscalité est avantageuse et des taux d'intérêt défiant toute concurrence ont permis à 85% des Taïwanais de devenir propriétaires, une proportion aujourd'hui parmi les plus élevées au monde.
J'ai une métaphore, c'est celle du jeu de Monopoly. Je pense que la génération précédente, ce sont les premiers arrivants. Et les premiers arrivants, ils achètent tout. Et dans cette situation, il n'y a aucune chance pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire la nouvelle génération. Alors les jeunes vont laisser tomber et habiter avec leurs parents pendant longtemps, jusqu'à leurs 30 ans ou 40 ans, parfois même plus. Et cela veut dire que tu ne peux pas avoir de famille et pas d'enfants, bien sûr.
Le gouvernement progressiste élu en 2016 a adopté une politique de l'offre. La rénovation urbaine ou la construction de logements sociaux sont notamment encouragées. Mais hors de question de s'attaquer aux règles du jeu et notamment à la fiscalité. 80% de propriétaires, c'est aussi 80% d'électeurs inquiets de voir leurs biens perdre de sa valeur. Dans son canapé confortable du ministère de l'Intérieur, le ministre adjoint Ching Chung-Hua le reconnaît à demi-mot.
Some NGOs want the government to do something to reduce the housing price.
Certaines ONG voudraient que le gouvernement fasse quelque chose pour réduire les prix de l'immobilier très rapidement, mais ce n'est pas bon pour l'économie. Nous voulons que le marché soit stable. Un marché stable, c'est le mieux pour le secteur privé, pour les propriétaires et pour l'économie taïwanaise. Donc il faut y aller progressivement et peut-être que dans 10 ans, Taipei sera une ville agréable à vivre.
Lovely city you can live.
En attendant, la frustration monte. Le logement est une des préoccupations majeures de la jeunesse taïwanaise. Sur le palier de sa petite chambre, Chris s'estime chanceux de pouvoir économiser. Ce n'est pas le cas pour tous les jeunes taïwanais.
In the end, I will still...
Au final, j'achèterai quand même un logement si je dois vraiment habiter à Taipei pour le reste de ma vie. Mais il y aura de plus en plus de gens qui iront vivre dans les villes, donc on doit faire comprendre aux autorités qu'elles doivent changer cette situation et permettre à tout le monde de vivre en ville. Le logement, c'est fait pour vivre, pas pour faire de l'argent ou pour faire un investissement.
Un reportage à Taipei, Sylvie Adrien, Simor, Thomas Jebin, c'est impressionnant cette situation. On a l'impression qu'on est dans un nœud qui ne pourra jamais se dénouer.
C'est-à-dire oui, c'est un effet impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce qui est décrit à Taipei, on pourrait faire le même reportage dans la plupart des grandes villes mondiales, y compris à Paris. On a ce phénomène où il y a une très forte inflation des prix, les revenus ne suivent pas, et notamment le revenu des jeunes ne suivent pas, donc ils sont obligés de cohabiter de plus en plus longtemps avec leurs parents. Mais ce qui me semble intéressant aussi dans ce reportage, c'est le fait que cette hausse des prix qu'on observe au niveau mondial est en fait encouragée par les gouvernements. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que quand vous avez les prix immobiliers qui montent, c'est un signe que la demande de logement, la demande de construction va augmenter. Et donc, c'est considéré comme quelque chose qui stimule l'activité économique. Donc, il y a toujours ce dilemme pour les gouvernements. D'un côté, vous avez... les populations qui sont de plus en plus exclues de l'accès à l'achat ou qui ont de plus en plus de mal à se loger. Mais de l'autre, les gouvernements veulent encourager les hausses de prix pour stimuler la croissance, qu'on a observé en France, mais ce qu'on observe également à Taipei. Donc il y a toujours cet arbitrage difficile que doivent faire les gouvernements. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements tendent à stimuler, c'est le cas notamment aux États-Unis, ça a été le cas en Europe, en France, ils essayent de stimuler les hausses de prix immobiliers.
C'était Codici et Codailleurs sur RFI. Nous parlons de la hausse des prix immobiliers au niveau international avec deux invités, Tom Agjebin, économiste au CEPI que vous venez d'entendre, et Ingrid Napi, professeur d'économie à l'ESSEC, une grande école commerciale parisienne à laquelle je donne la parole maintenant. Ingrid Napi, ce reportage vous a fait réagir aussi, il est frappant. Oui. Il y a beaucoup de choses à commenter sur cette réalité économique taïwanaise où les jeunes n'arrivent pas à se loger indépendamment, où le prix de l'immobilier est à 23 000 euros, où la fiscalité est très basse, où 85% des gens sont propriétaires de leur logement. Quel est le phénomène le plus marquant pour vous là-dedans ?
Alors, en effet, bon, d'abord, c'est un phénomène, comme je le disais, globalisé, donc qui concerne Taipei, mais il concerne toute autre grande ville où il y a une demande, tout simplement, pour y travailler, donc de ménages qui souhaitent y résider parce que tout simplement il y a de la possibilité d'y travailler. Encore une fois, c'est pas le cas dans certaines villes beaucoup plus petites où il y a un désert au niveau du travail et donc il n'y a pas de demande de résidence. Donc là, forcément, on voit ce phénomène généralisé. Alors, déjà, il y a 10 ans, avant la crise financière, en 2007, j'avais déjà travaillé sur l'accessibilité au logement, le pouvoir d'achat des ménages primo-accédants. Et déjà à l'époque, à Paris, un ménage primo-accédant ne pouvait acquérir que 27 mètres carrés pour un ménage primo-accédant avec enfant. Donc c'est très peu.
C'est-à-dire
donc,
s'il n'était pas riche, avec son simple revenu.
Avec son revenu de ménage primo-accédant, donc 27 mètres carrés uniquement dans Paris. Donc le phénomène, il date. C'est un phénomène qu'on observe tout simplement parce que aujourd'hui, plus précisément parce qu'il y a un contexte financier de baisse des taux d'intérêt, d'un rallongement des durées d'emprunt, qui suscite tout ménage qui comprend bien à un moment donné que les prix vont monter à devenir propriétaire. C'est logique. Aux États-Unis, on l'a vu avant la crise des subprimes, une baisse des taux d'intérêt pour susciter l'acquisition de logements. Je dirais pas que ce sont les gouvernements qui encouragent la hausse des prix, je ne pense pas du tout. Je pense qu'en fait, par contre, on voit bien que les gouvernements sont très intéressés par la construction. Le chiffre clé de la construction de logements est un chiffre important qui est retenu par tous les grands économistes, notamment également par les marchés financiers, parce que ça veut dire que derrière, il y a de l'activité économique. Faut quand même rappeler aux auditeurs que le BTP, le bâtiment de travaux publics, est un secteur fondamental dans la relance de l'économie.
On dit notamment, quand le bâtiment va, tout va.
Alors, c'est quand même pratiquement 8% du PIB.
En France.
Ça a été aux États-Unis 15% avant la crise des subprimes. Si on rajoute les activités des services immobiliers qui vont avec, les agents immobiliers, tout ce qui tourne autour du service immobilier, ça peut être parfois 20%, voire un quart. Et dans les pays asiatiques, c'est énorme. Donc on comprend bien que c'est un secteur économique, industriel en ce qui concerne le bâtiment, qui pousse à la relance économique. Donc, évidemment, c'est important de le prendre en compte. Ceci dit, il ne faut pas oublier que derrière également cette activité, il y a la rénovation qui représente la moitié. Et aujourd'hui, on a une obsolescence du parc dans un contexte, on parlait de développement durable tout à l'heure, un contexte où il faut prendre en compte les contraintes environnementales. Donc on ne construit plus comme avant, il y a le réchauffement de la planète qui est à prendre en compte, on sait que le bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc tout ça fait qu'il y a un contexte aujourd'hui favorable pour l'activité économique dans l'immobilier. Les investisseurs qui détiennent des grands patrimoines immobiliers ont besoin que ce patrimoine soit aux normes environnementales qui sont aujourd'hui global. Donc, on voit qu'il y a un besoin de renouveler le parc immobilier, de rénover les patrimoines immobiliers, qui suscitent parfois des augmentations de loyers qui sont répercutées. Là est le problème.
Et à Taipei, c'est le cas.
À Taipei, ce qui est le cas, c'est qu'on a des villes asiatiques qui sont sur des empreintes foncières, des emprises foncières très étroites qu'on fait, ce sont des îles. Donc, il y a une pénurie de foncier, donc on construit de plus en plus et évidemment, on construit des normes parfois beaucoup plus contraignantes, d'une part, et on voit qu'il y a une demande aujourd'hui de la part de population qui se protège en fait. Et comme l'immobilier est un secteur refuge, parce que derrière, il y a ce qu'on appelle le marché des actifs immobiliers, un actif réel, ben, il y a une demande très forte et donc forcément une spéculation.
Thomas Agjebin, on pense à la Chine.
Oui, mais la Chine, bah justement, je pense que la Chine, c'est un bon exemple pour revenir juste sur la discussion de tout à l'heure sur les gouvernements, où on peut dire presque que le gouvernement essaye de piloter, c'est très clair depuis 10 ans, les prix immobiliers. C'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle une politique de stop and go. Comme il a été dit, en Chine, par exemple, la construction, c'est 20%,
c'est 20%
du PIB.
Du produit intérieur brut, de la richesse nationale.
Oui. Et si on ajoute les activités associées comme le ciment, tout ce genre de choses, on est presque à 30% de l'activité. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la Chine, tous les 2-3 ans, donc quand il y a une surchauffe, ils vont augmenter les taux d'intérêt, ils vont augmenter certaines taxes. Et à l'inverse, quand ça baisse, ils vont baisser, quand le marché se retourne, ils vont baisser les taux d'intérêt, ils vont restimuler. Donc il y a vraiment une politique très proactive où ils regardent un peu comme un capitaine d'un navire qui essaye de gouverner les prix immobiliers. Mais ça a été le cas par exemple au Royaume-Uni où David Cameron, par exemple, en 2013, avait relancé le marché immobilier en essayant de stimuler l'achat des primo-accédants, s'appelait Help to Buy. En France, c'est aussi la même chose. Le président Hollande, fin 2014-2015, avait aussi essayé de relancer le marché immobilier et relancer les prix immobiliers via le prêt à taux zéro, le PTZ. Donc il y a toujours une volonté chez les gouvernements et cet arbitrage de, quand ils voient que le marché se retourne, que les prix baissent, bah, d'essayer de relancer la demande. Et relancer la demande, ça veut dire essayer de solvabiliser les ménages. Et donc ça vient un peu, ce qui fait écho à ce que vous avez évoqué au début de votre émission sur la proposition à Paris du candidat Griveaux d'essayer de solvabiliser, de donner 100 000 euros aux ménages pour qu'ils puissent acheter un logement.
Et vous pensez que c'est une bonne idée ?
Je ne vais pas me prononcer, mais ce qu'on voit à Paris, c'est que si, comme l'offre est très rigide, c'est-à-dire que c'est très difficile de construire, si vous donnez plus d'argent, ben, ça va se traduire par une hausse des prix, quoi. Donc, ce sera quelque chose d'inflationniste, quoi. En général, ce genre de dispositif, par exemple, le prêt à taux zéro, c'est essentiellement fait pour stimuler la demande de logement. Et donc, ça produit des hausses de prix.
Ingrid Napi, est-ce que le levier fiscal est très important ? Dans cette affaire, on voit à Taipei que les impôts sur le foncier sont très faibles.
Évidemment, la fiscalité est un des outils pour relancer le secteur immobilier, notamment la construction. En France, l'investissement locatif est alimenté par des mesures de défiscalisation. Chaque ministre du logement a mis sa touche sur la défiscalisation pour inciter le logement locatif, l'investissement dans le locatif, qui est une bonne chose en soi. L'idée, c'est d'augmenter l'offre locative pour permettre aux gens qui ne peuvent pas acquérir de logement, au moins de pouvoir le louer. Le problème aujourd'hui, il n'est pas tant là, je dirais. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité maintenant de ces investissements locatifs sont occupés par des locations saisonnières. Par exemple, on voit aussi, on n'en a pas parlé... Que ce soit Airbnb, bien évidemment, il est pointé du doigt, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les villes, les métropoles, et notamment en Europe, où il y a une demande très forte de tourisme, pour des raisons historiques principalement, aujourd'hui sont sujets de spéculation immobilière, parce que vous avez des personnes qui achètent des logements uniquement pour les louer en meublé ou les louer en location saisonnière, ce qui est beaucoup plus rentable. Évidemment, quand vous regardez le prix à la semaine, c'est beaucoup plus intéressant de louer de temps en temps, même deux semaines par mois, que de louer un ménage qui en a besoin et qui n'a pas les moyens de s'acheter un logement. Donc là, ce phénomène-là, il est pointé du doigt. Un autre phénomène également, c'est tout ce qu'on voit en termes de rénovation urbaine qui engendre une gentrification. D'autres phénomènes aussi...
Une gentrification, un embourgeoisement.
Un embourgeoisement. Alors bien évidemment, il y a une valeur ajoutée qui est apportée à ces territoires qui pendant longtemps ont été laissés à l'abandon. On voit bien que maintenant, les villes, j'avais beaucoup travaillé sur l'impact des Jeux Olympiques ou l'impact des méga events, notamment que ce soit Expo Universelle, etc. Évidemment, il y a besoin de foncier, donc il y a besoin de rénover ou de ce qu'on appelle de la régénération urbaine. Donc, on a besoin de construire et forcément, comme les prix sont à la hausse, on offre aujourd'hui des logements avec des loyers bien plus élevés qu'ils ne l'étaient auparavant.
Vous parliez tout à l'heure, Ingrid Napi, de la crise de 2008 qui a été provoqué par l'effondrement du secteur financier immobilier américain, par la crise des subprimes. Est-ce que ce même phénomène est en train de se reproduire ou pas ? Est-ce qu'il y a une bulle financière sur l'immobilier en ce moment ?
Alors, il y en a qui diront qu'il n'y a pas de bulle, c'est normal, et d'autres diront que c'est une bulle. Alors, quand on parle de bulle, derrière, il y a bien évidemment l'idée de spéculation. Moi, je dirais qu'on est quand même sur une bulle. Alors, elle est alimentée par une très forte demande d'actifs, mais notamment par des fonds d'investissement qui sont court-termistes. Dès lors qu'on est court-termiste, on va non pas attendre un rendement locatif normal, parce qu'il y a toujours eu des grands fonds de pension, ce qu'on appelle les institutionnels, les investisseurs institutionnels, des caisses d'épargne, des compagnies d'assurance, qui investissent dans l'immobilier à long terme, tout simplement pour offrir un service et en vivre, avec des rendements locatifs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'arrivée à nouveau de grands fonds dits opportunistes, qui sont des fonds de court terme, qui sont plutôt intéressés par ce qu'on appelle la création de valeur, ça veut dire traduisez l'accroissement des prix immobiliers suscité par un travail de gestion des actifs immobiliers à très court terme, généralement sur des niches très spécifiques, comme la rénovation de bâtiments, et qui, automatiquement engendre une augmentation des prix. Et là, elle est pointée du doigt. Et là, en toute proportion, il faut ce genre d'acteurs. Mais quand ils prennent une proportion tellement importante, et actuellement c'est le cas, on les voit revenir sur des classes d'actifs, et notamment du logement, c'est là que c'est inquiétant. Parce que ce n'est pas contrebalancé par des investisseurs qui sont long-termistes, qui ont toujours été là pour offrir du logement locatif. Et on les rencontre à Berlin, on les rencontre à Paris, on les rencontre partout, et on les rencontrera également en Afrique.
Tabak Jebine, vous partagez ce point de vue? On est sur une bulle immobilière ou un semblant de bulle?
Oui, je pense qu'on est sur des bulles immobilières qui sont peut-être pas comme celles des subprimes, mais quand vous avez un tel décalage entre l'évolution des prix et celle des revenus, ou quand vous avez un décalage très fort entre les prix et les loyers, le prix d'un bien, à un moment, ça doit être quelque chose comme la somme des loyers. Si le rendement du bien, c'est-à-dire le loyer, est complètement déconnecté de la valeur du bien, c'est qu'en général, pour un économiste, ça va être un symptôme de quelque chose qui va pas, et on va dire que c'est un symptôme d'une bulle. De façon plus générale, quand vous voyez dans certaines villes, ou au Paris, on prenait des hausses de prix de près de 10% par an, on voit bien que les revenus n'ont pas augmenté d'autant, les salaires n'ont pas augmenté d'autant. Donc c'est que derrière, il y a un phénomène spéculatif. À Paris, par exemple, les prix ont plus que doublé par rapport aux revenus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est des choses...
En combien de temps ?
Depuis les années 2000, quoi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces phénomènes de spéculatifs peuvent également se retourner. Par exemple, à Paris, entre 91 et 97, les prix ont baissé de plus de 40%, corrigé de l'inflation. Donc, il peut y avoir des retournements très importants. Aux États-Unis, pendant la crise des subprimes, donc les prix, dans les années 2000, dans les grandes villes américaines, New York, avaient beaucoup augmenté par rapport aux revenus. Mais suite à la crise, on est revenu au même niveau qu'en 2000. Donc vous pouvez avoir des corrections très fortes de prix immobiliers. Donc les ménages notamment pensent que les prix ne font qu'augmenter, ce qui est vrai, notamment ce qu'on regarde à Paris sur les 15 dernières années. Mais il faut voir aussi qu'il peut y avoir des retournements très forts, et notamment aux États-Unis, vous avez vu des retournements très importants, quoi.
Alors Paris, on en parle, il y a une flambée des prix, vous le disiez à l'instant, Thomas Jebine. Le retour des Français qui vivaient à Londres et que le Brexit incite à se réinstaller à Paris est un des facteurs de la demande dans le secteur de l'immobilier haut de gamme. Écoutez à ce sujet le reportage qu'a réalisé Patricia Lecomte du service économique de RFI.
Bonjour, monsieur Duguesne.
Oui.
C'est ici le deux pièces à vendre?
Exactement, un deux pièces qui vient d'arriver sur le marché.
Georges-Louis Duquesne a rendez-vous avec Véronique Morin pour lui faire visiter un 42 mètres carrés. Cette Française, analyste dans un groupe de courtage en produits financiers, travaille à la City depuis 10 ans, mais ignore si après le Brexit, elle y restera. Face à cette incertitude, elle souhaite acheter un pied-à-terre parisien.
Moi, je cherche ce genre de produit, c'est-à-dire un deux pièces, quelque chose de calme, de l'ancien. Voilà, j'aime bien ce genre d'appartement. J'aimerais être rive gauche, en étage élevé.
Véronique s'est fixé un budget de 550 000 euros, un montant qui lui semble correct.
Moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus à Paris, donc je ne connais plus trop le marché parisien. Les prix ont vraiment augmenté récemment. J'ai bien vu qu'il fallait un budget conséquent. Donc je vais consacrer un budget assez important à cet appartement, c'est vrai. Mais Londres, bon, vous savez, c'est pareil. Hein.
Depuis le vote du Brexit, Georges-Louis Duquesne est de plus en plus sollicité.
Allô ?
Bonjour, donc Georges-Louis Duquesne.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes à la recherche d'un appartement à l'achat à Paris depuis décembre.
Notamment pour des appartements familiaux avec des contraintes précises.
On est sur de l'appartement traditionnel, souvent dans de l'ancien. Dans l'ouest de Paris, et avec des demandes qui sont liées à ce type de famille, des écoles de qualité à proximité, être à proximité des centres d'affaires, que ce soit La Défense ou Neuilly. C'est vraiment ce type de profil qu'on rencontre, des gens qui ont en général des revenus importants, qui peuvent investir assez facilement, et puis des gens qui sont en attente de service. C'est là qu'on intervient, nous, en tant que chasseurs, en cherchant un appartement, en visualisant tout ce qu'il y a sur le marché et organiser à leur intention des visites au moment qui est adapté pour eux.
C'est le cas d'Anne Clémence. Avec son mari qui travaille dans la finance, ils ont décidé de revenir en France en septembre pour la rentrée des classes de leurs 5 enfants. Comme d'autres expatriés, elle fait appel à un chasseur d'appartements, un intermédiaire indispensable pour sa recherche.
Et là, j'ai vraiment, vraiment pas le choix. Je n'ai pas la possibilité de venir, de laisser mes enfants facilement, etc. C'est quand même connu, en fait, dans les pays anglophones, les chasseurs d'appart, c'est assez fréquent. Paris, en tout cas, les gens en parlent beaucoup.
Avant l'annonce du Brexit, l'immobilier londonien était plus cher que le parisien. Mais aujourd'hui, la tendance s'inverse. Le marché immobilier parisien est de plus en plus tendu.
Patricia Lecomte du service économique de RFI, dans ce reportage, Ingrid Napi, vous me disiez, je veux expliquer pourquoi les prix de l'immobilier montent. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez démonter le mécanisme
non,
plus
ouais, parce que, non, je voulais réagir par rapport à ce que disait Thomas tout à l'heure. Évidemment, quand ça se retourne, ça fait très mal. On a vu en 91 quand ça s'est retourné, des sociétés immobilières très connues ont disparu. En 2008, à nouveau, avec la crise subprime, les dégâts étaient considérables. Et là, on voit bien qu'on atteint un paroxysme, c'est qu'en fait, parce qu'on l'a pas évoqué, la hausse des prix, elle s'explique surtout aujourd'hui par une très forte demande d'immeubles en tant qu'actifs qui rapportent des revenus. Je parle de grandes catégories d'immeubles, je parle de grands parcs immobiliers, je parle de grands acteurs de l'immobilier, des grands investisseurs, du ménage qui cherche à acquérir un logement.
C'est-à-dire entreprises qui cherchent à acheter 1000, 2000, 3000, 4000 logements,
voilà,
des immeubles.
Voilà, de grands investisseurs qui aujourd'hui sont confrontés à un dilemme, c'est-à-dire qu'ils ont une masse importante d'épargne collecter à placer dans de l'immobilier parce que les marchés financiers ne sont pas stables. Donc ils investissent dans la pierre parce que c'est beaucoup plus intéressant, on en a parlé tout à l'heure. Donc cette demande est tellement forte face à une offre qui elle est limitée. On peut pas construire des immeubles comme ça d'un claquement de doigts. Il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes urbaines, donc l'offre elle est limitée. Forcément, vous avez un mécanisme de surenchère et notamment qui se traduit par une baisse des rendements locatifs. Et la baisse des rendements locatifs automatiquement fait monter les prix. Et on le voit aujourd'hui, ces investisseurs qui avaient l'habitude globaux, on va dire des investisseurs internationaux, qui en Europe étaient surtout
Attendez, je vais vous arrêter là. Comment est-ce que la baisse des rendements locatifs peut faire monter les prix? Ça serait plutôt le contraire, logiquement.
Non, pas du tout. C'est justement ce phénomène classique, c'est une loi du marché. Donc, les rendements locatifs baissent aujourd'hui parce qu'il y a une très forte demande d'actifs face à une pénurie d'offres qui est globale. Donc, cette demande d'actifs entraîne une hausse des prix. Maintenant, ces acteurs qui sont internationaux, c'est ça, décrypter les marchés immobiliers, aujourd'hui, c'est de comprendre les acteurs internationaux de l'immobilier qui font les marchés locaux. C'est ça le problème. Les gens ne peuvent pas imaginer.
Mais par exemple, donnez-nous quelques noms d'entreprises qui achètent des pans entiers des villes. BlackRock
Non, mais alors on a après une typologie d'acteurs. Vous avez des investisseurs qui vont investir à très long terme, dont le métier c'est d'investir dans l'immobilier, ce qu'on appelle des fonds de pension, des compagnies d'assurance.
Vous l'avez déjà dit,
ces investisseurs à court terme, c'est différent. Les investisseurs à court terme, donc ce sont ceux qu'on appelle des investisseurs value-added, pour être correct, sinon on les appelle opportunistes quand ils arrivent sur des niches de marché. Vous avez Blackstone, vous avez Carlyle, vous avez des grands fonds de private equity. C'est autre chose, ce sont pas des institutionnels, ce sont des fonds de private equity. Ce sont pas des fonds de pension, ce sont des fonds de private equity. Mais on mélange tout sur le terme fonds, comme on mélange tout sur le thème rendement, comme on mélange tout sur le thème taux d'intérêt. Il faut faire très attention de ce dont on parle.
Thomas Jabin, vous avez la parole.
Je suis pas d'accord avec ça, parce que ce qu'on voit, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi il y a certaines périodes. Par exemple, reprenons l'exemple de Paris, où entre 2012 et 2015, les prix ont baissé en gros de 8%. C'est pas énorme, mais les prix ont baissé. Alors, est-ce qu'il se passe dans ce genre de retournement? Les prix d'immobilier.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui est pas très connu, mais c'était quand même une période de stagnation ou de baisse, quoi. Or, ce qui se passait à l'époque, c'est que les ménages différaient leur achat, se disaient « bon, maintenant, on est plutôt dans un retournement ». Et donc, tout ça repose beaucoup sur les anticipations des gens. C'est-à-dire, si votre voisin dit « j'ai vendu mon appartement très facilement à un prix que vous allez juger dingue », vous-même, si vous mettez en vente votre appartement, vous allez mettre cela à un prix dingue. Ce qui peut faire que vous avez vraiment un phénomène spéculatif qui se met en place et vous pouvez avoir des années, où, comme on disait tout à l'heure, des hausses de prix très importantes. Et ce qui explique que vous avez des années où à Strasbourg, ou dans certaines villes de province en France, vous allez avoir du jour au lendemain des hausses très importantes à Bordeaux, et puis à des moments ça va se stagner. Donc ça, je pense que c'est pas seulement une question d'investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qu'il y a un moment la fiscalité locale peut changer. Vous avez plusieurs facteurs. Par exemple, en Allemagne, ça a été très clair. Il y a eu dans les années 90, il y a eu une bulle immobilière en Allemagne de l'Est parce que il y avait toute une série de lois qui ont permis de défiscaliser les investissements des ménages en Allemagne de l'Est. Et en 97, en fait, le gouvernement s'est rendu compte que ça créait une bulle et donc a arrêté ce dispositif. Et très vite, en fait, il y a eu un retournement du marché. Et pendant très longtemps, en fait, les Allemands ont été un peu vaccinés face à cette hausse de prix, très méfiants face à ce type d'investissement qu'ils ont jugé très spéculatif. Aux États-Unis, c'est pareil. Ce qu'on voit, c'est que les ménages jouent un rôle très important dans les hausses de prix. C'est-à-dire, il y a certes, parce que de nouveau, vous allez vous mettre à acheter en tant qu'individu parce que vous allez anticiper que demain, le bien sera plus élevé. Donc, ça va vous faire un patrimoine que vous allez pouvoir potentiellement léguer à vos enfants. Donc, tout ça, ça repose, mais ce qui est le même comportement que les grands investisseurs, c'est qu'à un moment, quelles sont vos anticipations sur l'avenir? C'est pas parce que, même par exemple en France, c'est pas forcément spéculation au sens que vous allez acheter pour revendre, mais simplement parce que vous pensez que les prix immobiliers, ça va augmenter, donc ça va vous faire un patrimoine pour votre retraite ou un patrimoine à léguer à vos enfants.
Vous parliez de l'Allemagne de l'Est à l'instant, Thomas Gjebin. On va un peu plus loin à l'Est par rapport à Paris. La situation de hausse des prix de l'immobilier, c'est aussi celle que l'on connaît à Moscou, une ville tentaculaire, plus de 12 millions d'habitants. Et on s'attend en 2020 à une hausse de 10% dans le neuf et de 6% dans l'ancien. Pour les habitants de la capitale russe dont les revenus ont stagné et même reculé ces dernières années, il est de plus en plus difficile de se loger. C'est un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Daniel Valo à Moscou.
Salut.
Vous enlevez les chaussures?
Привет, меня Галя зовут.
Salut, je m'appelle Galia, je suis designer et j'ai 33 ans. J'ai acheté cet appartement en novembre 2016.
Galia nous reçoit dans son petit studio de 32 mètres carrés, au 10e étage d'un immeuble neuf, situé à une trentaine de minutes en métro de l'hypercentre de Moscou. Et c'est avec beaucoup de fierté que la jeune femme nous fait visiter l'unique pièce de son studio, avec salon, chambre et salle à manger.
Ici, j'ai mon lit. Il est en hauteur, vous voyez, parce qu'en dessous, j'ai mis toute ma garde-robe et aussi la machine à laver parce que la salle de bain était trop petite. On m'a dit qu'en France, c'était pareil. On essaie d'utiliser le moindre espace disponible.
Ce petit studio, Galia l'a payé 5 millions de roubles, un peu plus de 70 000 euros au cours actuel. Une somme importante en Russie où le salaire moyen est d'environ 40 000 roubles par mois, moins de 600 euros.
Moi, je suis originaire de Smolensk. Et là-bas, pour 5 millions, c'est vrai que j'aurais pu avoir un immense appartement. Mais bon, à Smolensk, il n'y a pas de boulot et les salaires sont minables. Vous savez, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas trop m'éloigner de mon travail et donc de rester pas trop loin du centre.
Nous partons à présent au sud de Moscou, tout au bout de l'une des 14 lignes de métro de la capitale russe. Un quartier dortoir, comme il y en a beaucoup autour de la ville. C'est là qu'a choisi de vivre Natalia. Cette mère de 3 enfants nous accueille dans son appartement de 100 mètres carrés, au 24e étage d'une tour construite pour accueillir ses familles de la classe moyenne, chassées du centre-ville par l'envolée des prix.
Lorsque nous nous sommes mariés, nous vivions dans le centre, dans un appartement d'une pièce. Ensuite, nous avons décidé d'avoir des enfants, et bien sûr, l'appartement était trop petit. Ici, nous sommes à 30 km du centre-ville, mais l'appartement nous a coûté 7 millions de roubles, à peu près 100 000 euros. À ce prix-là, dans le centre, on n'aurait jamais trouvé aussi grand.
Pour acheter leur appartement, Natalia et son mari profitent d'une somme de 450 000 roubles versée par l'État pour la naissance de leur second enfant. Une mesure destinée à encourager la natalité, mais qui n'a pas suffi à Natalia pour rester près du centre.
C'est difficile car dans le centre, nous avions beaucoup plus de services, de commerce, et ici, c'est très limité. Mais j'ai décidé que le plus important, c'est que mes enfants aient de la place pour grandir.
Face à la flambée des prix, de nombreux moscovites sont obligés de s'éloigner du centre pour se loger décemment. Autour du Kremlin et jusqu'au premier périphérique, les classes moyennes ont ainsi quasiment disparu. Et seuls les ménages les plus fortunés ont encore les moyens de vivre dans le centre de Moscou.
Un reportage signé Daniel Valo à Moscou. Il est très illustratif de cette ghettoisation, en quelque sorte, des centres-villes, Thomas Gjebin.
Oui, ça devient un très très gros problème. C'est-à-dire ce qu'on observe très bien à Moscou, ou ce qu'on regarde, si on regarde toute la capitale russe, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un si gros écart entre les prix et les revenus. On a parlé tout à l'heure de Paris ou de Taipei, où là, les prix avaient beaucoup décollé par rapport à l'évolution de revenus. C'est pas le cas à Moscou, par contre. Mais vous avez des petites enclaves dans le centre dans le cœur de Moscou, pardon, où là, vous avez vraiment des espèces de ghettos de riches, où là, vous avez des phénomènes extrêmement spéculatifs, une concentration de richesses qui fait que les prix là sont complètement décorrélés par rapport aux revenus des gens. Et c'est vrai qu'après, les gens sont obligés d'aller en
banlieue.
En banlieue, si on peut dire. Et donc, ce qui aussi nourrit la demande pour l'approche banlieue, quoi. Mais tout ça, ça dépend aussi du contexte économique. C'est-à-dire que c'est possible. Vous allez pouvoir acheter plus cher parce que vous avez des revenus qui vous permettent ou parce que vous avez des taux bas qui vous permettent d'emprunter sur une plus longue durée. À partir du moment où le contexte économique se retourne, évidemment, tout ce mécanisme s'arrête. C'est ce qu'on a observé notamment en Russie, où là, pour le coup, les prix sont assez dépendants des revenus pétroliers, de la situation, de ce qui se passe sur le marché pétrolier. Et plus généralement, par exemple, au début des années 2010, la situation économique en Russie était beaucoup plus difficile. Et donc, au contraire, vous aviez une période plutôt de baisse des prix, quoi.
Ingrid Napi, ce reportage à Moscou, il entre dans vos cadres d'analyse sur la place des grands fonds d'investissement spéculatif.
Oui, attention, pas que spéculatif. Vous avez d'autres fonds qui ne sont pas spéculatifs, mais une demande en tout cas d'actifs immobiliers face à un problème sur les marchés financiers. On n'a pas parlé des autres marchés, actions, obligations, mais tant que ces marchés ne vont pas bien, forcément, on se rabat sur le marché immobilier.
Alors, si je comprends bien ce que vous avez dit tous les deux au cours de cette émission, quand les gouvernements disent on fait des efforts, on va faire des efforts, on s'engage dans des politiques d'accession à des logements pas chers, à une baisse des prix de l'immobilier. En fait, ils mentent.
Je ne dirais pas qu'ils mentent, mais vous remarquerez qu'ils disent rarement on s'engage dans une politique de baisse des prix. Ils disent on va stimuler l'offre pour détendre un peu le marché, mais personne ne dit clairement qu'on va faire baisser les prix. Faire baisser les prix, ça veut dire que vous provoquez un crack, dit autrement, quoi. Donc les gouvernements, et il y avait eu en France par exemple le débat dans le quinquennat précédent entre Cécile Dufaux qui voulait vraiment faire baisser les prix avec ses lois sur le contrôle des loyers, et face à elle, vous aviez notamment le Premier ministre Manuel Valls qui lui au contraire voulait stimuler le marché pour favoriser le marché de la construction et donc créer des emplois. Donc vous avez toujours ce hiatus, enfin ce dilemme pour les gouvernements. D'un côté, ils voient bien que les prix sont très élevés, ce qui crée d'énormes problèmes d'accession à la propriété, ça augmente les inégalités, mais de l'autre, ils sont très réticents à faire baisser les prix parce que ça veut dire que vous provoquez un crack et donc les conséquences économiques sont aussi sévères. Donc vous avez ce dilemme pour les gouvernements et pour l'instant, il n'y a pas de solution.
Ingrid Napi, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la propriété immobilière ?
Non, je ne pense pas. En effet, il ne faut pas interdire la propriété immobilière. Je pense qu'il faut des locataires et des propriétaires. Et il faut tout simplement qu'on prenne conscience des rapports de force à un moment donné. Si les gouvernements ont un rôle à apporter, c'est de réguler les rapports de force sur les marchés en faisant bien la différence entre les marchés d'actifs et les prix. Quand on parle de prix, c'est les marchés d'actifs. Et quand on parle des loyers, c'est le marché locatif. Donc, à un moment donné, il faut rétablir les rapports de force afin de faire une ville durable, c'est-à-dire où on peut loger tous. Et ça, on a toujours vu des ghettos dans l'histoire économique des villes. On a toujours vu des quartiers plus ou moins riches et des quartiers plus ou moins pauvres. L'objectif, c'est de ne pas entraîner une exclusion des key workers, c'est-à-dire des personnes, des cadres moyens, voire des employés moins cadres moyens, mais que tout le monde puisse se loger. Donc le rôle d'un gouvernement, c'est de pouvoir aider, notamment par exemple par le logement social, ou en sollicitant de l'investissement locatif, ou en contrôlant les loyers. Mais il faut en fait ne pas supprimer la propriété. Non, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, si vous êtes locataire, il y a bien un propriétaire derrière. C'est ça, il faut bien comprendre quand même qu'il y a un propriétaire et un locataire. Donc, même si vous êtes locataire, il y a derrière vous un propriétaire.
Ce sera le mot de la fin.
Merci.
D'une évidence. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Ingrid Napi et Thomas Gjebin, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous retrouver en allant sur la page de l'émission, Écodicieco d'ailleurs, sur le site www.rfi.fr. Plus simple encore, vous pouvez vous abonner à Écodicieco d'ailleurs via votre application favorite de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.